R22 Tout Monde, Antenne La Fabrique Fantôme.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'espace Casma, et sans transition directe. Hein. Merci à vous tous d'être avec nous ce soir à l'espace Casma pour ce 25e, je crois, lundi de Fantôme. C'est le premier qui se déroule sous la forme d'un repas. On inaugure avec vous une manière d'être ensemble un peu plus détendue, on va dire. Voilà. Une manière comme ça de se dire qu'il n'y a pas de raison que l'art et sa découverte et le fait de le savourer ne puisse pas être accompagné par d'autres plaisirs. Donc merci à vous tous d'être avec nous, parce qu'un repas, c'est aussi des convives. Merci à Katia Camilli qui, ce soir, va nous présenter son travail. Juste pour vous dire un peu le principe des lundis de fantômes, c'est, on a ici le désir, depuis maintenant, c'est un programme qui a maintenant un peu plus de 3 années, de montrer en fait des artistes au travail, qu'ils présentent leur travail, peut-être pas sous la forme d'une conférence d'artistes, mais plutôt qu'il y ait une espèce de conversation qui traverse le travail, qu'on découvre un petit peu des œuvres, leurs motivations, peut-être ce qu'elles ont déclenché dans des œuvres à venir, qu'on regarde aussi des choses. Donc dans le cadre de Lundi de Fantôme, c'est souvent des artistes qui ont des pratiques de film. Alors je rassemble l'idée de pratique de film de manière générale avec la pratique de la vidéo et la pratique du cinéma d'artiste. En tout cas, on est pratique de film, donc on regarde des choses ensemble et on échange aussi dessus. Donc moi, j'ai un micro que je partage avec vous. Là, je me suis assis un instant comme ça pour être avec vous. Mais du coup, on fera circuler le micro juste après. L'idée, c'est aussi de dialoguer avec Katia sur son travail et qu'elle nous montre des choses. Alors, pour aussi vous informer que ce jeudi, parce qu'on ne fait pas les choses à moitié, ce jeudi à 20h au MK2 Beaubourg, il y a ce qu'on appelle les séances fantômes, qui sont le pendant du lundi de fantôme, où on verra 2 films de Katia qu'on ne va donc pas voir ce soir, qui seront vraiment montrés dans le cadre de ce cinéma où on fait un programme depuis 4 ans, et on monte du cinéma d'artistes dans ce cinéma au MK2 Beaubourg, qui nous accueille pour ce faire. Et donc ce soir, c'est un peu comme une espèce d'introduction au travail de Katia, pas simplement des films, mais aussi des formes visuelles plus généralement, parce que voilà, Katia est à la fois, on va dire, cinéaste, vidéaste, mais aussi plasticienne, on peut dire aussi auteur, en tout cas qui travaille sur la question du textuel et du récit. C'est aussi, juste pour en finir avec ça, pour moi, dans ces invitations lundi de fantôme, c'est aussi une manière d'une pratique, je dirais, de conversation élargie. Moi, j'ai l'habitude, dans le cadre de mon travail, de discuter avec des artistes de leur travail pour essayer de les aider à fabriquer des œuvres. Et ce lundi, c'est aussi une forme que moi, j'ai décidé un jour d'ouvrir et de partager un petit peu ce type de conversation qu'on peut avoir de manière plus privée dans un atelier à quelque chose d'un peu plus large avec vous, avec donc des gens qui sont, comme moi, des amateurs, c'est-à-dire voilà, des gens qui aiment. C'est à toi, Katia.
Bonsoir à tous. Je suis ravie que vous soyez tous là et de partager ce moment avec vous. Je te remercie pour ce dîner, pour cette invitation. Et je suis ravie que ça commence par un dîner parce que voilà, ça m'a permis de rencontrer les gens comme ça un peu au fur et à mesure aussi, en partageant des dates ou du vin, peu importe. Et voilà, vous avez vu en première partie plutôt une installation qui s'appelle Dissolution et voilà, qui était un peu un feu de cheminée. C'est un peu aussi comme ça que je la vois. Donc, en fait, on peut vraiment s'installer longtemps et la voir. C'est une boucle comme ça dans laquelle on est un peu bercé, mais qui sous-tend en fait plein de questions territoriales et politiques. Et voilà, j'ai fait un peu des choix ce soir, un peu arbitraires comme ça, sauf pour le dernier, mais parce que j'ai vraiment envie que ce soit un moment d'échange avec vous et de discussion, parce que c'est aussi ça qui m'importe, c'est pas que de vous diffuser mes projets et la manière dont je peux penser, c'est aussi de recevoir en fait de vous, en fait, la manière dont vous lisez ce que je peux fabriquer. Et donc, voilà, au lendemain de ces élections, je vais vous passer un film court, très très court, qui s'appelle Untitled, et qui dure 2 minutes 30, qui est un plan séquence, mais qui, en fait, est aussi, je crois qu'il était fait en 2009, 2011, pardon, et qui a une sorte de tournant en fait dans mon travail parce que je partais beaucoup du réel. Donc ça part toujours quand même un peu du réel, mais ça commence à être mis en scène. Voilà. Donc il n'y a pas de son, ne vous inquiétez pas. Bonjour, je vous dis, c'est très court. Donc voilà, bon, je me sens un peu comme ça aujourd'hui aussi. Je ne sais pas vous.
Clochard ?
Non, pas clochard, non. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un sort de moment comme ça un peu. Enfin, en tout cas, moi, je vais voter pour quelqu'un que j'aime pas, mais pour dire non à quelque chose. Quand même, enfin, j'ai pas beaucoup d'estime pour ce qui se passe là à l'instant, mais ouais, j'ai pas de. En tout cas, enfin, dans cette vidéo, il était question de la situation de la femme, plus particulièrement. Dans les pays du Maghreb. Et en même temps, j'ai l'impression que les slogans pouvaient être complètement différents. Donc en fait, il n'y a pas de slogan sur ces pancartes. C'est une manifestation muette. Mais du coup, chacun peut projeter en fait, ses propres mots, ses propres slogans. Voilà. Donc en fait, ouais, il y a quelque chose en fait, c'est que mon travail n'est pas assez ouvert en principe. Donc il n'y a pas de diktat dans la manière de lire les choses. Alors là, je vais vous montrer un autre film qui s'appelle The Storyteller. Donc que j'ai tourné peut-être un an après. Un title et que j'ai réalisé dans un contexte un peu particulier, qui est la Biennale de Marrakech. Et à ce moment-là, je venais de tourner Future, qui sera projeté jeudi. Et je pensais beaucoup à la dérive, en fait, à cette notion-là, et comment on se déplace dans la pensée. Et voilà, donc je suis invitée à Marrakech, je dois proposer un projet, et je me balade dans la ville, et je me retrouve sur la place Jemaa el-Fna, qui est la place hyper touristique de Marrakech. Mais en fait, en la voyant de haut, je me rends compte que c'est un espace intéressant, parce que les gens... Donc c'est l'endroit où il y a les chambres du serpent, les storytellers, où on peut, enfin voilà, il y a différents types de personnages qui activent cet endroit, et les gens se déplacent d'une narration à une autre narration, et d'une histoire à une autre histoire. Donc je me dis, tiens, c'est finalement cette place, c'est un peu la place de la dérive. Et je m'intéresse plus particulièrement aux storytellers. Donc, en fait, le storytelling en arabe, ça s'appelle halqa. Ça veut dire faire le cercle autour de soi. Donc, c'est intéressant parce que c'est déjà un cercle. Donc, ça veut dire que les gens se dépassent d'un cercle à un autre cercle. Et qui est le théâtre ancestral au Maroc. Et en faisant des recherches, je rencontre un storyteller dont la spécificité est de raconter des films. Et donc voilà, on s'entend et je lui demande de me raconter un... Et plus particulièrement, en fait, ce qu'il aime. Donc en fait, il va au cinéma qui se trouve à côté de la place Jamia Fnac, qui s'appelle le cinéma Eden, qui diffuse particulièrement des films de Bollywood. Voilà. Et donc en fait, on a choisi un film de Bollywood ensemble. Donc je lui ai proposé un film qui s'appelle Dosti et qui en fait est 3h30 de dramaturgie. Mais dans Dosti, en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a aussi un cercle qui se forme à un certain moment donné, et c'est un peu lui qui raconte une forme de sa propre histoire. Donc, voilà. Après, je vous en dirai un peu plus.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يحكى والله أعلم أنه كان بأرض الهند واحد شاب في العمر ديالو 18 سنة الاسم ديالو رامو كان عايش غير هو وأمه كان يتيم من باه في واحد كان هذا الولد مجتهد في الدراسة ديالو كان تيجي هو الأول كان مولوع والهواية ديالو كرة القدم.
Bon, je sais pas ce que je fais. J'enchaîne. Vous avez des questions? Un autre?
Bon, allez. Peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus sur peut-être les conditions de réalisation de ce film qui est quand même assez étonnant.
Donc bah voilà, j'ai un peu raconté. Voilà, enfin du coup je. J'ai l'idée de m'interroger sur les storytellers, donc ceux qui font la halqa. Parce que je sais qu'il y a, en fait, enfin, c'est aussi ça, c'est que je connais aussi le contexte, et je sais qu'en fait, il y a aussi ce lieu dans lequel j'ai tourné, qui s'appelle, donc, qui est le théâtre. Vous m'entendez là ? C'est mieux si je fais comme ça. Donc, qui est le théâtre de Marrakech, le théâtre opéra de Marrakech. En fait, ils ne l'appellent pas opéra parce que ça a été une faillite. Hassan II, faut quand même expliquer le lieu dans lequel on tourne. Hassan II voulait un opéra à Marrakech. Bon, déjà, c'est un peu curieux, quoi. Enfin, on se demande enfin, pour qui ça peut être dédié. Et il a fait appel à un architecte tunisien qui a fait une sorte de copie de l'Opéra Garnier à Paris. Et puis, en fait, ils ont foiré la construction. Donc en fait, à l'extérieur, il est terminé. C'est comme une sorte de gros gâteau à la crème rose. Mais à l'intérieur, c'est ce concrete, enfin c'est cette ossature de béton. Et voilà. Et donc qui était un des lieux potentiels pour qu'on pouvait utiliser pour la Biennale de Marrakech. Donc du coup, quand j'ai vu cet endroit, je me suis dit effectivement, bon. Je vais déplacer mon storyteller et je vais lui demander aussi de prendre cet espace, quoi, puisque en fait, normalement, cet espace aurait dû leur être dédié et que la halqa, je vous le répète, c'est un peu le théâtre ancestral marocain. Et voilà, donc je pense que vous avez compris pourquoi je lui demande d'interpréter Dosti, puisque c'est l'histoire de ces deux gosses. 3h30 de drame, hein, il vous le résume en 12 minutes. Mais
Tu disais que c'était aussi une histoire qui faisait écho à sa propre...
C'est ça, parce qu'en fait, voilà, il s'en sort dans la vie, parce qu'à un moment donné, donc, il le dit d'ailleurs avec ses mots, hein, parce que, enfin, donc, il est interprète et traducteur de la manière dont il peut percevoir ce film. Et en fait, finalement, il raconte sa propre vie, quoi, puisque lui, tous les jours, il descend dans la rue. Enfin, il va au cinéma d'abord, après il retourne dans la rue et il raconte le film. Bon, là, en fait, ce sont deux jeunes garçons. Il y en a un qui sort son harmonica et l'autre qui se met à chanter. Mais il y a un cercle qui se forme autour d'eux et on leur donne de l'argent, voilà, pour continuer à faire leur travail. Donc c'est lui qui raconte un peu son propre destin.
Et ce film, il joue un rôle aussi particulier dans ton travail, parce que c'est peut-être pas la première fois, mais c'est un moment en tout cas où apparaît quelque chose qui va être important, moi je trouve, dans les films qui suivent. Ce principe de la double narration, on dira, quelque chose qui est à la fois vu et raconté.
C'est ça.
Qui va être à la fois... et donc l'espèce de relation, on va dire, ou l'espèce de capillarité entre ce qu'on voit et ce qui est raconté est imparfaite, donc c'est pas la répétition, même encore dans ce cas-là où il y a quelque chose qui se décale.
Non, c'est une interprétation.
Voilà, mais après il y a deux régimes de récit qui vont s'installer, c'est-à-dire un régime qui va donner à voir quelque chose et un régime qui va donner à entendre quelque chose, et c'est l'écart entre ces deux régimes de récit qui va être aussi l'un des éléments de ton travail postérieur à cette pièce-là.
C'est ça. Et alors, du coup, l'idée était un peu de ne pas vous montrer que des films et de vous faire entrer un peu plus dans le travail en règle générale. Suite au Storyteller, en fait, j'ai rencontré un anthropologue français qui me dit « Ouais, tu sais, ton film, ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que tu sais qu'en fait, les fables de La Fontaine sont inspirées de contes arabes ?» Alors, bon, je dis pas non, en fait. Enfin, oui, La Fontaine, j'ai appris par cœur à l'école. Je me souviens qu'on m'a parlé un peu d'Ésope. Enfin, voilà, c'est ce dont je me souviens à l'instant. Et puis, je rentre chez moi, en fait, et je commence à faire des recherches. Et j'étais embarquée dans un autre projet qui s'appelle Stream of Stories. Vous pouvez voir une grosse partie au Macval, hein, en ce moment, dans une exposition qui s'appelle Tous des Sangs Mêlés. Et... voilà, on fait une petite dérive, mais ça me va assez bien. Enfin, vous verrez pour ceux qui viennent jeudi. Et donc voilà, en fait, j'ai commencé ces recherches sur La Fontaine, et il s'avère qu'en fait, effectivement, La Fontaine s'est inspirée de contes arabes qui s'appellent Kalila Wadimna, mais lui d'ailleurs ne le sait pas, parce qu'en fait, ces contes viennent d'Inde. Sous le nom de Pachatantra, qu'ils ont été après transcrits vers le perse sous le nom de Kalile Wadimne, et puis donc vers l'arabe en Kalila Wadimna, qui veut dire les deux chacals. En fait, tout ça, ce sont des traités politiques à la base. Et ce qu'on peut retrouver, mais ce qu'on ne nous apprend pas du tout à l'école, je ne sais pas si on vous a présenté les Fables de La Fontaine comme un traité politique. Ah oui ? Il n'y en a qu'une. Sur toute la salle, ça va, ça me rassure. Mais bon, en tout cas, moi, on me l'a pas présenté comme ça, en fait. On me l'a présenté plutôt comme des fables, de manière autonome, qui avaient chacune leur morale. En tout cas, à la base, c'est un traité qui s'adresse aux princes pour gouverner leur royaume. Bon, en tout cas, tout ça m'a... Donc ça, c'est la suite du Storyteller. Tout ça m'a emmené dans un projet qui est assez dense. Qui s'appelle Stream of Stories, donc le flux des histoires, dans lequel je montre de manière très muséale, en fait, différentes choses, donc des masques. Il y a des interviews avec des spécialistes. Il y a une interview que j'ai un petit peu envie de vous passer là à l'instant, mais peut-être, je sais pas, c'est pas, on n'a peut-être pas le temps. Avec Omar Berada, et qui dure, je crois, 6 minutes, et qui nous parle du rôle du traducteur. Parce qu'en fait, c'est assez important, en fait, là, dans ma pratique. Là, il y a une interview avec Christine Zenig-Haas, qui est la conservatrice du Musée Jean de La Fontaine, et qui parle d'une chose intéressante, c'est une sorte de boucle aussi, parce que ça, la boucle, c'est important dans mon travail. De boucle, parce que La Fontaine avait un fan, un diplomate français qui s'appelle Feuillet de Conche, et qui a fait illustrer, en fait, il ne sait pas que ça vient d'Inde, ces histoires, mais quelle idée, en fait, parce qu'à cette époque-là, l'Inde, c'est un peu à la mode dans les salons parisiens, de faire illustrer un recueil des Fables de La Fontaine par un peintre du Lahore, qui est à la mode à ce moment-là, qui s'appelle Imam Bashk, bon, qui est après devenu hyper connu. Et donc, en fait, il faut quand même aussi s'imaginer. Donc, en fait, le peintre du Lahore qui doit illustrer un recueil des Fables de La Fontaine. Donc, en fait, certainement, il y a un traducteur qui lui raconte plus ou moins, en fait, quelle est la fable. Et lui, voilà, il dessine. Bon, voilà. Donc, en fait, bon, ça, c'est du matériel que j'utilise après dans toute. Voilà, pardon, excusez-moi. Hop. Voilà, qu'on peut retrouver en fait dans des collages que je fais après. Donc, voilà. Mais bon, voilà, c'est un petit crochet. Je passe le Omar Berada ou. Allez. C'est informel. Hein. Alors. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que je l'ai ? Donc, Omar Berada, c'est un. Il est maintenant commissaire. Mais bon, à la base, il ne se présentait pas du tout comme ça. Il est traducteur. Et il a monté. Il travaille beaucoup avec une artiste qui s'appelle Ito Barada. Et il a monté un centre de traduction à Dar el Mamoun, au Maroc. Attendez, est-ce que j'ai la version française ? Excusez-moi, en fait, c'était pas. Ça, c'est un peu. Excusez-moi, je suis pas sûre que ce soit la version. C'est écrit en français ? Non, c'est écrit en anglais. Bon, ben, je vous allais pas la voir, en fait. Non, c'est, je crois que ça, je l'ai qu'en anglais. Pardon. Ouais, c'est en anglais. Bon, ouais, je ne vais pas vous imposer ça. Hein. Ouais, désolé. Bon, bah voilà, on va passer directement à autre chose.
Tu peux peut-être aussi nous parler justement de ce que. Omar relève dans ton travail. Est-ce que tu parlais de cette question de la traduction ? Là, il y a la traduction par rapport à la.
Oui, alors Omar, en fait, il explique très bien ce qui m'intéresse énormément, puisque ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'espace de l'entre-deux. Et comment, en fait, dans l'entre-deux, en fait, on peut recomposer les histoires, les réinventer. Et finalement, quand j'interview Omar sur le rôle du traducteur, parce que là, du coup, en fait, La Fontaine, c'est une forme de traducteur. C'est pas comme ça qu'on nous l'a présenté, mais en fait, c'est un peu la réalité. Voilà. Enfin, du coup, je me pose aussi la question de qu'est-ce qu'on fait, en fait. Moi, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fabrique ? Donc, j'ai aussi l'impression que je suis un peu dans ce rôle-là. Je comprends des choses. Et puis, je suis entre deux territoires. Je vous ai pas dit que j'étais franco-algérienne. Je suis entre deux territoires. Donc, en fait, finalement, je transpose une compréhension des choses vers une autre. Et c'est complexe, en fait. Ça demande effectivement un travail parce qu'en fait, Omar, la manière dont tu racontes, c'est cette frontière en fait, la frontière entre le texte. C'est pas simplement, donc, d'ailleurs il évoque cette idée-là, c'est pas uniquement transvaser d'un vers à un autre. C'est comment on retranscrit sans traduire de manière. Sans traduire au premier degré, en fait. Comment, en fait, on transforme la langue et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et quelle écriture. En fait, on doit régénérer une écriture, en fait. Et j'ai l'impression, en fait, mon travail, il est un peu là. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai très bien résumé. Je pense qu'il le dit mieux que moi. Bah, parce qu'en fait, je ne m'intéresse pas qu'au territoire français.
Parce que là, vous avez amené dans un territoire marocain, qui est indien. Vous avez amené dans un territoire féminin.
Vous nous avez amené dans un territoire féminin, politique du féminin. On a reconnu qu'on était dans telle société, femme voilée, occidentalisée, on a reconnu Alger la Blanche. Vous l'avez appelé Untitled, donc dans une langue. Vous vous êtes présentée comme franco-algérienne. Vous êtes dans un territoire cinématographique avec une mise en abîme dans un lieu que moi je ne connaissais pas, mais j'ai eu besoin de votre explication pour savoir que c'était un bonbon rose à l'extérieur, mais du ciment, donc quelque chose qui est déconstruit ou pas encore construit, donc dans du chantier. Donc moi j'étais dans un imaginaire de l'immigration du travail, avec, par ce béton-là, avec une histoire d'amitié et d'amour homosexuel entre un aveugle et un éclopé.
Ah, c'est génial.
Dans cette narration. Et après, évidemment, on connaît l'homosexualité marocaine.
Oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Ah, oui, je suis d'accord.
Qui a totalement.
J'ai jamais lu ça comme ça. C'est tellement génial là, ce que tu dis. Hein, c'est incroyable. Qui j'ai a jamais lu ça comme ça alors que je pense ça aussi.
Et moi, j'entends évidemment alors de La Fontaine. On a fait une omerta sur ce monde perse arabe et on retient qu'en fait, c'est La Fontaine et Ésope. C'est-à-dire qu'entre la Grèce et la Renaissance et la modernité occidentale, il y a eu un trou, une béance qui est l'ère géographique orientale, voilà, donc, et qui est, moi, une très grande résonance avec cette dépossession active et acculturation qui est à l'œuvre en Europe.
C'est ça, il n'y a pas d'hégémonie culturelle.
Et je suis troublée de cet anglais-là. Alors évidemment, je peux comprendre qu'on est dans une facture... une position industrielle internationale.
C'est et pas pourtant, une position ça me industrielle, non, non.
Non, attends. Mais Mosaic Room, c'est à Londres, c'est un mais centre
en fait,
d'art.
Il se trouve qu'en fait, je suis très heureuse qu'Olivier m'ait invité ce soir, mais moi, j'ai très peu montré mon travail en France. Très, très peu. En fait, mon travail, il est diffusé, il a été diffusé dans plein d'endroits, mais très peu en France. Donc, il y a un moment donné où, en fait,
On pourrait dire que c'est pas la seule personne qu'on invite ici qui est très peu montrée en France. On a cette particularité de s'intéresser à des territoires, à des histoires et à des pratiques. Absolument pas pour cette raison-là, mais effectivement, dont l'un des points communs, c'est que ce soit des scènes proches ou des scènes plus lointaines, c'est des gens qui sont pas dans le récit de l'art français aujourd'hui.
C'est ça.
Après, c'est vrai aussi que peut-être qu'on pourrait, si on poursuit cette idée-là, et pour reprendre aussi ce que vous racontiez, peut-être que moi, ici, moi, j'ai un intérêt un peu particulier dans le champ de l'art autour des artistes qui s'intéressent à la question du récit, à raconter des histoires. Et qu'on a un pays où il y a un seul narrateur pour l'instant.
Mmh, c'est ça.
Et que quand on ramène des gens qui viennent un peu raconter d'autres histoires, parce que c'est aussi d'autres histoires, le collage que tu fais, ce storyteller, tu le ramènes quelque part d'autre, donc quelque part, tu ne vas pas simplement le prendre pour lui-même, dans son contexte, mais il y a bien un geste de déplacement, de choses qui existent, mais qu'on met dans un autre contexte, et donc on fabrique fondamentalement une autre histoire. C'est vrai que moi, sans le récit aussi de l'endroit, il y avait quand même pour moi une évocation de la modernité, parce que cette question du geste un peu brutaliste pouvait être aussi pour moi une évocation un peu du Corbusier de toute le travail de l'utopie architecturale et radicale dont on oublie souvent que le laboratoire a été le Maghreb ou l'Afrique où c'est aussi là que Prouvé a construit d'abord au Cameroun. On sait qu'il y avait pour moi une espèce d'évocation d'une forme de modernité comme ça, mais c'est intéressant aussi qu'on...
Ben oui, mais du coup, là, c'est un peu la question aussi. Mais en fait, c'est un drôle de truc, quand même, cette volonté d'avoir un opéra à Marrakech. Enfin, c'est quand même extrêmement...
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la volonté d'avoir un opéra à Marrakech. Ça, c'est un premier geste.
Et puis que ça foire.
Et voilà, mais le foirage ça, devient quelque chose. Du coup, là, il y a quelque chose qui se passe.
Et du coup, c'est récupéré par l'art contemporain. Mais bon, en tout cas, ouais.
Pardon, mais la situation du narrateur, par contre, change complètement.
Mais il est dans ce rapport-là, hein, sur la place. Hein.
Oui, mais enfin, la place est un espace public, et comme tu l'as décrit, il s'agit de cercles qui se forment autour.
Ah, mais là, le cercle que vous formez autour de lui. Hein. Mais là, le cercle que vous... Enfin,
non,
là,
non,
vous
êtes... mais c'est une question que je te pose, parce que moi, ce que j'ai ressenti, c'est que, de fait, il est en hauteur, la caméra, elle est presque, tu prends en contre-plongée, comme ça.
Elle le rattrape après.
Ouais, je le rattrape.
Mais quand même, du coup, c'est extrêmement frontal, et il est complètement isolé, comme un prêtre, j'allais dire, parce que tu vois, ou en tout cas, quand il refaire. On n'est pas du tout dans la constitution d'un oui, enfin
du cercle.
Oui, d'un groupe urbain qui vient écouter quelqu'un d'une manière live. Là, comme tu dis, tu remets en scène, mais du coup, le rapport de
transmission
de la parole est complètement inversé.
Ouais, le rapport change. Ouais. Oui, c'est vrai, le rapport change en fait, parce qu'il n'est pas.
Mais ce qui est drôle, c'est que du coup, dans tes déplacements, on a l'impression qu'il y a.
Il se rapproche.
Ces petites modifications-là font qu'en fait, l'histoire reste la même, avec une forme d'éloquence qui est quand même assez. Drôle, un travail empathique, donc là on n'est pas dans un prêche totalement parce qu'on n'est pas dans l'abstraction, on est quand même dans l'empathie, mais c'est vrai qu'il y a un corps à chaque fois, et ce corps là on se rend compte que n'importe quel déplacement, si tu le sors de la rue avec son cercle et tu le mets un peu en hauteur, et tu as raison de le noter, d'un coup il produit un autre imaginaire. Si on le, à la fin il fait une sortie théâtrale, c'est quand même un théâtre de boulevard un peu à la fin. Il y a une sortie un peu donc, quelque part, on voit que sur quelques éléments, un sens comme ça s'agrège, qui peut être.
Non, mais c'est vrai. Mais en fait, moi, je voulais qu'il se rapproche, mais comme tu te rapproches d'une histoire. Au début, tu lis, et tu vois, t'as un peu. Enfin, moi, quand je commence un bouquin, j'ai un peu de distance. Et puis, au fur et à mesure. Ou quand on regarde un film, et au fur et à mesure, on rentre de plus en plus dans l'histoire. Et en fait, c'était un peu ce mouvement-là que je voulais recréer, où en fait, il vient de loin, qu'on le suit ou on le suit pas, on rentre dans l'histoire ou on rentre pas dans l'histoire. Et c'est un peu ça, parce qu'en fait, bon, ça dure 12 minutes, bon, y a un banc circulaire qui recrée ce cercle dans l'installation. Mais voilà, c'est t'accroches les 5 premières minutes, ou les 3 premières minutes, sinon t'accroches pas, tu t'en vas. Bon, voilà. Et là, il faut s'asseoir, il faut rentrer dans l'histoire. Mais comme dans n'importe quelle narration, en fait.
Mais tu dis justement, là, tu décris un dispositif d'installation. Alors du coup, quoi, nous, on l'a découvert là comme un film, il me semble, avec vraiment un début, une dramaturgie et une fin.
Mais ça,
comment tu gères l'idée qu'on puisse arriver en plein milieu, quoi, je sais pas, moi, du coup, je vois pas comment, à la fois la durée de la pièce permet tout à fait de la faire circuler dans une économie.
Ouais, c'est ça. Ça dure 12 minutes. Donc, en fait, je pense que quand à la fin, t'as envie de reprendre la boucle. Et c'est une boucle, de toute manière. C'est une boucle, on est toujours dans une boucle. De toute façon, lui, déjà dans la forme des plans, en fait, on tourne, on revoit la boucle de la halqa, on comprend qu'il est en train de raconter. Enfin, non, on ne comprend pas, parce qu'en fait, faut lire le texte. Mais enfin, voilà, on est que dans des histoires de boucles. Et donc voilà, faut reprendre la boucle. mais donc du coup, je l'imaginais que l'installation, elle fonctionnait dans ce sens-là. Où t'arrivais à la fin, t'avais quand même envie de savoir le début de l'histoire. Mais et qu'elle, voilà, 12 minutes, c'est complètement. Ça se tient, quoi.
Qu'est-ce que ça aurait produit si tu n'avais pas mis placé des extraits du film?
Je sais pas, je trouvais que c'était plus difficile. Pas de l'écouter lui, mais de comprendre la pensée qu'il pouvait y avoir. Enfin, pourquoi j'avais choisi ce film.
Parce que disons, ça devient juste un conte.
C'est ça. C'est juste, en fait, c'est juste un mec qui nous raconte un film. Enfin, vous auriez même pas su que c'était un film. Donc, en fait, moi, je voulais vraiment qu'on sache qu'il racontait un film. C'est hyper important, quoi. Enfin, c'est quand même incroyable. Il va, enfin, c'est quand même son activité, quoi. Il va au Cinoche à côté de la place. Il paye son ticket. Il regarde un Bollywood. Il le regarde 2-3 fois, il revient sur la place et il raconte le Bollywood pour les gens qui n'ont pas l'argent pour aller au cinéma voir le film, entre autres. Parce qu'en fait, il parle en arabe, donc il ne s'adresse pas aux touristes. Hein. Moi, je vous traduis le truc, mais en fait, il parle... Enfin, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui s'adresse aux touristes. Ou alors, ils sont comme ça, ébahis par le geste, tout ça. Mais là, vous avez l'histoire, quoi, en fait. Donc, enfin, voilà, c'est... Enfin, je trouve que ce geste est incroyable, hyper beau. Et donc, alors après sur l'histoire du Bollywood, pourquoi est-ce qu'il raconte des films de Bollywood? Alors ça, je peux vous, parce que j'ai fait un peu de recherche là-dessus. Et quand, moi, en fait, au début, quand j'avais lu des articles, enfin, j'ai eu trois lignes sur ce personnage. Et donc, j'avais demandé à Jamel Karkar. Non, c'est là que ça date. Parce qu'en fait, Jamel, on s'est rencontrés en
Algérie. Parce que Jamel, on va le voir après.
Voilà, mais Jamel Karkar, qu'on va voir dans le film d'après, quelqu'un que j'ai rencontré à Alger, quand je faisais les workshops, j'ai produit des jeunes Algériens. Lui, il n'a pas produit de film avec moi, mais on a beaucoup discuté. Et je lui avais dit qu'il y avait une école de cinéma à Marrakech et que ce serait bien qu'il postule. Et donc, il est allé. Donc, voilà, je me dis, super, il y a Jamel qui est à Marrakech et tout. Donc, je lui donne une mission, quoi. Je lui dis, il faut que tu me retrouves à Azalia. Donc, c'est parce que j'avais que ce nom-là. Et donc, il me dit, oui, mon prof de cinéma le connaît, il est connu à Marrakech. Et apparemment, il raconte des péplums. Donc, je m'étais dit, ouais, pourquoi pas. Alors, du coup, j'avais imaginé un autre scénario. Je me suis dit, ouais, peut-être je vais l'emmener à Ouarzazate, parce qu'il y a des studios de tournage à Ouarzazate. Et donc, on va peut-être pouvoir tourner dans une sorte de reste, comme ça, de film, de péplum, qui aurait pu être tourné, et puis il me raconte un truc. Donc, c'était mon premier plan. Puis, en fait, je le rencontre à Marrakech, et là, il me dit, ah non, non, non. Et donc, mais moi, je comprenais pas pourquoi, parce que bon, voilà, j'ai quand même cette culture algérienne, malgré le fait que je suis scolarisée en France. Et je me disais, mais le péplum, c'est bizarre, ça fait pas, c'est pas très maghrébin le péplum. Et d'un coup, il me dit, non, moi, c'est les Bollywood. Donc, je me dis, ah ouais, là, ça colle, quoi. Là, d'un coup, je comprends, en fait. Enfin, du coup, ça fait, parce qu'en fait, en Algérie, sur la télévision nationale, on avait d'abord le film égyptien, et en deuxième partie, on avait le film de Bollywood. Et du coup, je me suis beaucoup interrogée, c'est pourquoi est-ce qu'on avait des films à ce moment-là, hein? Pourquoi est-ce qu'on voyait des films de Bollywood en deuxième partie à la télévision nationale algérienne? Bon, bah, c'est simple, en fait. Ça se regarde en famille. Hein. On parle d'amour, il y a des chansons, il y a de la dramaturgie. Mais voilà, mais il n'y a pas de scène de sexe. Donc voilà, on n'est pas obligé. De toute façon, il n'y avait pas de télécommande à l'époque. Donc voilà, donc c'est un programme familial. Et en fait, il y a un business qui s'est monté entre un prod marocain et un autre indien, en fait. Donc, ils ont dubé des films, de manière assez cheap. Ils ont dubé des films de Bollywood, voilà. Et du coup, c'est un programme pas cher que le Maghreb a acheté. Donc, bon, enfin, mais... Bon, mais c'est intéressant de savoir tout ça aussi. Pourquoi, en fait, quel est le lien? Pourquoi est-ce que les... Pourquoi le Maghreb a regardé du Bollywood?
Après, ce que tu cites là, c'est que c'est un cinéma qu'ils diffusent, donc c'est encore un autre espace, une autre économie. C'est des cinémas qui diffusent, au kilomètre de films de Bollywood, quoi. Donc là, et l'idée du cinéma qui est encore un truc intéressant, parce que la télévision c'est encore un autre espace. Là, il y a vraiment l'idée d'un endroit où.
Mais les gens, ils allaient ils allaient dans le cinéma, quoi, pour voir ça, parce que.
Enfin, je sais pas. Il me semble d'une part qu'il y a une autre boucle, c'est-à-dire que. Pourquoi inclure des images du film, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui part du cinéma, qui devient, par le storyteller, qui devient du théâtre, une forme de théâtre, et toi, tu ramènes du théâtre dans le cinéma. Donc il y a avec le noir et blanc qui dilue un peu les notions de temps. Et voilà. Après, je sais pas, il me semble qu'il y a autre chose qui est sur la notion de peuple, c'est-à-dire que je ne connais pas le cinéma, l'opéra de Marrakech, etc., mais je me souviens d'une artiste qui avait fait quelque chose dans un cinéma à Casablanca, qui est aujourd'hui désaffecté, qui racontait que ce cinéma, ce n'était pas seulement un cinéma, c'est-à-dire c'était là aussi où il y avait des matchs de boxe, il y avait une fonction éminemment populaire du cinéma dans un contexte qui était plus large que le cinéma. Que le cinéma lui-même, donc cinéma qui participe d'un art, enfin ouais, qui est un art populaire de récit, ce que peut-être, enfin je sais pas.
Ouais, je crois. Enfin, en tout cas, je crois qu'au Maghreb, le cinéma c'est plus le récit que le cinéma. Non ? T'es pas d'accord ?
Je crois pas.
Bon. Je sais pas. J'en sais rien. Mais je sais pas, je me pose des questions. Mais j'ai l'impression que quand même si, en fait.
Dans l'expérience spectatorielle,
ouais, ou ouais.
Ce qui est diffusé
Non, dans l'expérience spectatorielle, ouais, effectivement. Mais d'ailleurs, en fait, tu vas au cinéma en Algérie, il y a les portables qui sonnent. Enfin, je veux dire, ils ont quand même beaucoup de mal à faire qu'il y ait du silence dans une salle de cinéma. Les gens, ils commentent. En fait, c'est comme s'ils étaient pas ainsi, non? Ça a jamais été.
Oui, bien sûr, mais je ne crois pas que ce soit propre à Nord-Sud. Je pense que c'est vraiment une question d'économie, quoi. Parce que moi, je me rappelle l'expérience cinématographique en France. Elle avait aussi ça dans les années 80. Elle avait encore ça. Il y avait encore du cinéma permanent. Donc, oui, parce que après, on a connu. On croit que c'est naturel, la pratique cinématographique que nous avons maintenant. Non, elle est construite depuis 20-30 ans. Mais c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à naturaliser, dire « Ah, les gens du Sud, ils font ça, les gens du Nord ».
Non,
mais
c'est pas ça.
L'expérience populaire du cinéma, elle existe. Parce que quand on a eu l'arrivée, enfin je dis nous, parce que je travaille dans l'exploitation, dans les années 90, quand on a eu l'arrivée des UGC, justement, il y a eu la crainte que, oh là là, il y a des publics populaires, ça braille, ils ne respectent pas le silence coincé des spectateurs cinéphiles. Donc voilà, en revanche, on a perdu en France, et c'est devenu culte, ou dans les cinémathèques, les expériences multiples, culturelles, dans la salle du cinéma, où le film fait partie d'un programme. Et ça, ça existe encore, mais d'une manière un peu cinéphilique. Esthétique, il faut qu'on paye un peu plus, mais c'était une pratique courante, populaire. Voilà, donc après les expériences que l'on a, l'expérience que j'ai en Algérie ne concerne, il me semble, n'a aucun rapport avec ce que j'ai vécu au Maroc, ni ce que j'ai vécu en Tunisie, donc c'est pour ça que je trouve que c'est un peu... Voilà, l'expérience que je connais de public cinématographique en Algérie, c'est un public extrêmement engagé, avec une parole... très forte, qui n'est pas celle que je trouve dans les publics marocains, qui est un public beaucoup plus passif, beaucoup plus commercial et moins, qui ne prend pas la parole, par exemple.
C'est ça, oui, en Algérie, les gens prennent souvent la parole.
C'est une agora politique.
C'est ça. Un film est forcément, on en parle plus qu'on...
Oui, d'ailleurs, on peut rejoindre aussi l'expérience du cinéma égyptien, où c'était quand même un cinéma réputé pour être très, je dirais, interactif. C'est un grand cinéma et à la fois un cinéma fait pour être presque dialogique, quoi. Il y a plusieurs scènes qui se jouent en même temps, mais c'est vrai, tu as raison de souligner qu'on oublie, donc, dans une économie du cinéma populaire. Moi, ça m'est arrivé une fois, quelques temps, avec mes enfants, et c'est quand même assez réjouissant que des gens vont vraiment aller voir Spider-Man pour se foutre de la gueule de Spider-Man pendant tout le film. Non, parce qu'on se dit, ouais, vraiment, les gars, ils moutonnent et tout. Moi, je pensais ça. Hein. Et tu te retrouves avec des gens qui, tout le long, tu vois, s'ils trouvent ça cheap, si, tu vois, il y a plein de remarques, tu es dans une expérience cinématographique et quand même... Et je m'étais dit que c'est la raison pour laquelle les multiplex avaient monté le son. Et donc, c'est hyper fort, quoi. C'est un cinéma où vraiment, dès les premières scènes, tu te dis, bon, j'ai vieilli... Et donc, c'est hyper fort. Donc, tu peux parler parce qu'en fait, le son est hyper fort, quoi. Et c'est un truc qui doit, à mon avis, couvrir peut-être le son des gens qui commentent et qui se moquent des trucs qui sont notamment invraisemblables. C'est quand même le signe d'une bonne santé de société. Quoi. Les gens, ils vont voir un truc invraisemblable. Tu vois, c'est fait avec beaucoup de 3D, beaucoup d'argent qui a été investi. Les gens, ils disent, mais bon, c'est n'importe quoi, ça. Tu vois, comment le gars... Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même encore peut-être un espace. Mais c'est vrai qu'il est plus permissif, finalement, dans les multiplex, au fond, que dans les cinémas...
Bon, alors je vais vous montrer un dernier film qui s'appelle Yarai. Je vais en profiter pour aller aux toilettes, parce que moi, je les connais déjà. Et je vais faire un mouvement. Et voilà, donc en fait, donc ça commence à Oran, puis ça nous amène vers Barbès. Et c'est sur... vous allez voir, c'est sur le rail. Alors, je vais vérifier que tout parte bien. 15 minutes.
glory. Oh, واللي عشقها يعداه. تلومني في وجه الناس ويلي عينك في اللوم وفريقك الفضة الغالية واللي تنحاس ودوم ذي كان وفي عام قلبي تقطع بالمواس ما جبرو ومكان كوي للناس يصبر كيف روح اللي غرق في غموق المحال عم الخطوة.
ويا خيتي ورخالك لي دينا ميلودا ma relation avec la musique raï, c'est que j'ai grandi avec cette musique. J'avais les 15-16 ans et il y avait la chanson oranaise qui commençait à être un peu démodée par rapport à notre jeunesse à nous. C'était trop blanc, si on veut dire. Et la musique raï est venue avec de très belles mélodies. La musique raï, c'était le birra arbiya et le whisky gaoli, qui voulait dire que le birra arbiya, c'est une boisson pour les pauvres, et le whisky, c'est une boisson pour les riches. Et c'était un truc nouveau pour nous. On était à l'école à Cheikh Abdelkader, à Fatmi Lhouari, à Kumil, c'est le fief de la chanson, parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux chanteurs là-bas. Et il y avait Khaled, il y avait Fethi, Cheb Fethi, il y avait Affan, il y avait Taras, il y avait Smahi, tout un monde était au commun. Nous, on n'avait pas les... Malgré qu'il y avait des radios crochées, mais c'était la chanson occidentale. Par contre, nous, on cherchait les nouveaux chanteurs raï et ils se trouvaient dans les mariages. Et chaque samedi, on partait, on faisait des déplacements pour suivre les nouveaux chanteurs. Il y avait l'orchestre et les chanteurs se plaçaient en genre de... C'est-à-dire, ils chantaient par tour. Chaque chanteur faisait son numéro, son bœuf, une, deux chansons. Et quand Khaled faisait son bœuf, c'était... Moi, on savait que c'était la star de la chanson qui arrivait. Et Khaled, il est parti à El Hanoua Chabab. El Hanoua Chabab, c'est à la télévision algérienne. C'est un genre de radio crochet, que celui qui est classé premier, il va réussir, il va être pris en charge par les autorités et tout. Et il y avait les maîtres de la chanson oranaise, c'était eux qui étaient à la RTA, à la télévision, c'était eux les responsables. Et Khaled, il a eu, si on veut dire, l'audace et le courage de chanter Fayrouz, la capitale de la Palestine. Une célèbre chanson que tout le monde adorait. Et il a été renvoyé, alors qu'au contraire, il fallait l'adopter. Lui écrire de belles paroles. Quand le raï a été renvoyé, il s'est dirigé vers les cabarets. Moi, j'étais descendu à un cabaret ici à Oran et j'avais vu que tout a changé. J'ai vu le chanteur, il vient chez les clients et il s'assoit avec eux. Et là, il commence à lui donner de l'argent. Il y a des gens qui viennent et ils vont passer une soirée au cabaret. Et le groupe de musique, il a des courtiers. On leur donne l'argent avant la soirée. Et quand ça chauffe, dans les dédicaces, un client il vient et demande une chanson. Alors, il est en train de danser avec sa fiancée et tout, il est content et tout. Et le courtier il vient, bon lui il sait pas que c'est un courtier. Il lui arrête sa chanson. Il avait mis 3000 dinars. Le courtier ramène 5000 dinars. On arrête la chanson du monsieur et on chante la chanson du courtier, qui est soi-disant client. Et le premier client, il est énervé parce qu'il lui a coupé sa chanson. Mais pour qu'on lui refait sa chanson, il faut qu'il donne plus que 5000 dinars. Ça, c'est les vices du cabaret.
من بعد الغربة ما بقات صحبة وين حبواي وين اللي خدع لي لمن 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 ودي لمن أمر أمان وينان لقيتو حبيبتي تمشط مش عرفتوني مش عرفتوني مش عرفتوني مانا 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 مانا
La chanson qu'il y avait avant, c'était la chanson du Parti Unique. Tout était contrôlé, les chanteurs, on n'avait pas besoin de les contrôler, ils étaient payés au mois. Et ils savaient préparer le chanson. Par contre, le raï, non, il est sorti de la rue, comme Khaled a dit, le raï, il est chargé à l'ksab. L'ksab, c'est quoi? L'ksab, c'est le bambou qu'il y a dans l'Oued, dans les fleuves. Il y a ça en Thaïlande, il y a ça. C'est un endroit, c'est l'inattendu. Rien ne peut sortir de cet endroit. Nous, on avait un proverbe qui dit ça. Pas un proverbe ancien, un proverbe de jeunesse. Il dit, c'est-à-dire, il est sorti de l'inattendu, de là où on n'attend pas. Toi, tu attends dans un opéra, dans des conservatoires, dans des télévisions, mais Laura, il est sorti d'un endroit où personne n'attend.
Salam alaykoum. Ouais, je suis là. Ça va? Ça va. 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 وعنده بزاف لي كاسي شوف شنو عنده القدام وكلش عنده باني فيه كلش
شوف عنده جوج لكسمانه الجايه ودوك راه
عنده دوره عبد الدوره عنده تلقى عنده لي كاسي هاي في الامان
الله يحفظك
سلام اخويا
صحيح
بروكا علاش تحوس بالطب كاين هنا دي شونسون ماروكان دي شونسون الجيريان Ça dépend qu'il y a un peu de chavi, un girois, un peu de ksba, un peu de tchra, un peu de tchra oriental. Ça dépend, il y a beaucoup de production ici. Il y a des éditions de
Paris ou non ?
Il y a des éditions de Paris. Il y a des éditions de Paris. Il y a
وضحت
رباح
يدي
فهد عنده درام ها ما يتضرب والو ولا لا
زيد وحده باش 38
لا خليها هكذا لا نبيش لك ان شاء الله مرحبا بك اخويا وان شاء الله ليك
We'll be right back. لطيف ولطيف راجل هير قد ورايكم يا دورايكم ورايكم وي رايكم ورايكم هذا رايكم ورايكم قلت اكرهكم اكرهكم وعفوك غادي العويش نتزوج غادي الزواج
خاطر بو علام ديسكوتيك لي ماغرب خاطر كاسيد يا عبد القادر خاطر عبد الله ومحمد خاطر نوفيل إطوال خاطر محمد الرواية
C'était le dernier. Bon, moi je le vois avec beaucoup de distance là d'un coup, parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas. Enfin, pas si longtemps, parce que ça fait pas longtemps qu'il a été fini, mais je sais même pas s'il est d'ailleurs fini. Mais, mais voilà, moi j'ai vu que les trucs qui m'agaçaient, donc je sais pas trop ce que vous avez pu en penser. Mais voilà.
Je sais pas, vous avez... C'est quoi les trucs qui t'agacent ?
Bah, c'est il y a des trucs techniques aussi, mais qui sont pas, enfin voilà, que j'ai envie de reprendre. Enfin, c'est pas étalonné, par exemple. Voilà, j'ai envie de refaire l'étalonnage. Je trouve qu'on amorce quelque chose, mais que j'en dis pas assez. Mais qu'on amorce quelque chose, quoi. Mais après, dans le temps que j'avais pour produire la pièce, du coup, c'était un peu. Ouais.
Cette vidéo, je la vois pour la première fois. Pourtant, je connais un petit peu ton travail. Mais du coup, je vais revenir un petit peu sur l'expo de Londres par rapport à tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'expo de Londres ? C'est-à-dire un petit peu le concept par rapport à Khalil Ndemna. Et j'imagine que maintenant, c'est par rapport à ce qu'on a vu sur cette vidéo qui est juste magnifique, impressionnante. Peut-être éloigné, mais je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des relations, peut-être qu'il y a des choses que tu trouves en commun ou
des choses... Là, je sais pas encore. Voilà. En fait, que franchement, ben, du coup, Yaraï, c'est un film qui a un mois, quoi, quelque chose comme ça. Donc, j'ai pas encore complètement digéré, j'avoue, ce que j'ai fait. Donc, c'est aussi un, enfin. Voilà, enfin, je l'ai montré dans l'exposition, je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes et tout. Mais je n'ai pas complètement tout digéré, donc je suis pas... Je peux parler de certaines choses que j'ai mis dedans et tout ça. Après, faire le rapport avec l'expo à Londres, vu qu'il n'est pas dans l'expo à Londres, et que je ne suis pas sûre que je l'aurais mise dans l'expo à Londres, c'est un peu compliqué pour moi. Après, je peux parler de l'expo à Londres, mais c'est autre chose. Mais... Ok, donc l'expo à Londres, elle s'appelait What Language Do You Speak Stranger, qui est d'ailleurs, tout à l'heure on a vu le storyteller, donc qui est une des premières phrases qu'on voit dans le storyteller. Donc voilà, elle commençait par storyteller, après on allait dans Stream of Stories, et puis après dans le roman algérien qu'on verra jeudi soir. Et cette expo, elle parle plus effectivement de la narration, du rapport à l'histoire, en règle générale. Ce qu'on retrouve aussi dans Yaraï, parce qu'en fait, on le retrouve dans tous mes boulots.
Mais justement, dans ce format, dans ce dernier film qu'on a vu, on a l'impression que tu vas de manière beaucoup plus assumée vers une forme documentaire. À la fois en gardant quelque chose qui peut-être est, on en parlait tout à l'heure, particulier à ton travail, qui est cette espèce de concomitance entre deux niveaux de récit, parce que du nouveau, qui parle n'est pas forcément directement à l'écran. En tout cas, il y a un corps qui va porter une présence à l'image, qui ne va pas directement être un corps parlant. Il y a un niveau de récit qui va se passer presque parallèlement. Et tu gardes quelque part une espèce de dissociation en fait entre le locuteur, celui qui parle, et celui qu'on voit ou ce qu'on voit, comme une espèce de continuité des travaux précédents. On a toujours l'impression qu'il y a un espèce de hiatus entre ce qu'on voit et ce qu'on entend, comme s'il y avait une histoire à recomposer, peut-être, tu parlais de l'entre-deux, en tout cas un espèce d'espace que tu laissais un peu indécidable, ou en tout cas à compléter.
Ouais, parce qu'en fait, j'imagine qu'en fait, il n'y a pas, une forme de... Enfin, il y a une forme de narration, mais qu'en fait, c'est pas... Voilà, ça reste une narration, quoi. Donc, du coup, à chacun... je pense que je laisse à chacun l'espace d'interprétation possible à chaque fois. Et c'est hyper important pour moi.
Tu vas à l'endroit du singulier, parce que justement, pour parler de cette question du rail, qui pourrait être qui a été et qui peut être encore un sujet de film et de documentaire, là, c'est plutôt la relation singulière qu'une personne entretient avec le rail. Donc, de nouveau, c'est encore comme quand le film du storyteller, c'est toujours un corps en particulier, une histoire en particulier, comme s'il y avait besoin, et on l'a évoqué un tout petit peu tout à l'heure dans la discussion, de sortir d'une forme de généralité qui serait finalement portée à ce qui n'est pas en Occident, où on va très singulariser les récits, et puis après il y a les autres. Parce que...
Ouais, et puis parce qu'aussi, je pense qu'en fait, on a tous un rapport très particulier à la narration. En fait, quand on prend un bouquin, en fait, toi, tu vas le lire avec ton prisme, moi avec le mien. Et moi, l'oreille, quand je l'écoute, j'ai mon prisme. Et n'importe quelle personne... Enfin, on ne va jamais vivre les choses de la même manière. Donc c'est aussi ça, en fait, à chaque fois. Et quand je parlais du rôle du traducteur et du... Enfin, et de ce rôle important, quoi, puisqu'en fait, c'est quelqu'un qui prend la décision de... Enfin, ou en tout cas, qui va faire le travail de retranscrire. Donc, ouais, le traducteur, c'est celui qui prend aussi l'espace... enfin, qui prend ce positionnement où il va... reproposer en fonction de son histoire et de son contexte. Un texte, un film, et du coup voilà, enfin c'est aussi, enfin du coup ça passe par le filtre d'une personnalité, voilà, et on est tout le temps face à ça en fait. Quand on lit un article dans Libération, dans Le Monde, ou enfin dans n'importe quel publication, qu'on nous parle de telle ou telle personne, en fait, c'est par le prisme de quelqu'un. Et je trouve qu'on a un peu tendance à l'oublier, en fait, ce filtre. Et cette question de notre individualité face à la lecture, en fait. On voudrait toujours nous mettre dans du nous, ou nous raconter notre histoire. Quelle est notre histoire ? Est-ce qu'il y a des histoires ou est-ce qu'il y a notre histoire ? Ouais, donc je crois que c'est ça en fait qui m'intéresse.
Peut-être pour finir, je voulais te demander de nous peut-être nous dire un peu quelques mots par rapport aux deux films qu'on va voir jeudi, notamment un film qui ouvre une série qui s'appelle Le Roman Algérien. Donc c'est assez ambitieux déjà comme idée. Il y a un premier film que tu as déjà fait, il y a des films que tu projettes. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots, et puis parler aussi du second film qu'on va montrer jeudi, qui sont finalement, quelque part, ils procèdent de régime d'écriture qu'on a vu aujourd'hui. C'est-à-dire cette espèce de question de ce qu'on voit, de ce qui est là, de ce qui est déjà donné. Et quelque part, toi, que tu ne prends pas comme déjà donné, mais que tu rejoues avec un autre régime de récit.
Alors bon, le roman algérien, il s'agit de questionner au travers du prisme d'un kiosque qui est installé à Alger depuis 20 ans et qui voilà, c'est un kiosque un peu sauvage où en fait on trouve des images. Des originaux, des cartes postales originales, des reproductions d'images qui sont réinstallées tous les jours en fait par la personne qui les vend. Et donc voilà, tous les jours en fait, faut imaginer un stand qui est réinstallé. Ça les prend au moins une heure et demie tous les jours et qui recompose en fait une forme d'histoire algérienne. Et voilà, c'est là depuis 15-20 ans. Et les gens viennent et achètent ces images. Et c'est pas... Non, c'est de l'Algérie. Ouais, c'est pas des images d'Alger, c'est des images de l'Algérie, mais c'est des images du début du siècle. Il y a des images coloniales, des images politiques, il y a des images touristiques, il y a des images architecturales. Enfin, il y a toutes sortes... Voilà, il y a beaucoup de figures politiques, il y a tous les gens qui sont passés en Algérie. Donc en fait, il y a plusieurs histoires, quoi. Il y a plusieurs histoires qui se mêlent sur, voilà, ces 2-3 mètres de kiosque. Et les gens viennent et achètent ces images et ces reproductions d'images. Et donc, voilà, depuis très longtemps, en fait, je fantasme sur cet endroit en me posant la question pourquoi, en fait, les Algériens ont besoin de cet endroit et pourquoi ils achètent ces images. Sachant qu'il y a quand même, enfin, tout un diktat par rapport à l'image, qu'il n'y a pas de musée, que l'accès aux archives est complexe. Et qu'il n'y a pas, dans les livres d'histoire, il y a très peu aussi d'images. Et donc, quand elles y sont, elles sont sans légende, enfin bon, c'est compliqué. Donc voilà, enfin, du coup, par l'intermédiaire de ce kiosque, je questionne les Algériens sur leur relation à l'image et sur leur relation à l'histoire. Voilà. Donc voilà, il y a un. Donc ce qu'on verra, je dis, c'est le premier chapitre. Qui était montré dans une exposition qui s'appelait Made in Algeria au MUSEM, au commissariat de Zahir Hamani. Et là, je suis en train de construire le deuxième chapitre, où c'est une mise en abîme. Et l'idée, enfin, vite fait, hein, parce que c'est pas fait, donc j'aime pas parler des choses qui sont pas faites, mais l'acteur principal, l'actrice principale, c'est Marie-Josée Mondzin, donc, qui est une philosophe de l'image, qui est née en Algérie et qui a un regard particulier sur ce pays-là aussi, et qui va réinterpréter le film à sa manière, en tant que philosophe de l'image. Ouais. Marie-Josée Mondzin. C'est un peu la Georges Didier Huberman féminine.
C'est dur de dire ça comme ça, parce que...
Ouais, c'est un peu... c'est un peu voilà. Mais bon, enfin...
Et c'est aussi beaucoup d'autre chose.
Voilà. Ouais, j'allais dire, voilà. C'est aussi... On est d'accord. Elle est mieux que Georges. C'est juste qu'en fait, voilà.
Oui, c'est plutôt ça. Georges Duberman est un peu la Marie-Josée Mondzin. Je suis d'accord.
C'est ça, ouais, c'est ça, au masculin.
Par exemple.
C'est vrai. C'est vrai. Non, non, mais bon, moi, je l'adore. D'ailleurs, elle regrette de ne pas être avec nous parmi nous ce soir, sinon, enfin, voilà. Donc,
Et on verra juste un deuxième film. Tu nous dis deux mots, on t'a un peu terminé.
Et alors, l'autre film, ça s'appelle Futur. Donc, ça n'a rien à voir avec l'Algérie, pour une fois. Et c'était aussi important, en fait. Et alors là, c'est produit aussi dans un contexte particulier, qui est Marseille-Provence 2013, où j'étais invitée à proposer un projet pour les ateliers euro-méditerranéens. Sachant que c'est intéressant, en fait, enfin, ça m'intéressait comme concept, puisque en fait, ce sont des privés qui produisent 80% de la pièce. Donc il y a une relation qui est intéressante aussi avec ces gens-là. Et moi, l'entreprise avec laquelle je travaillais s'appelle Future Telecom. Et j'avais assez envie d'intégrer en fait, les gens qui travaillent dans cette entreprise au film. Donc en fait, je demande à. Je sais pas, 25 personnes qui travaillent dans cette entreprise, de me raconter ce qu'ils voient de chez eux à leur lieu de travail. Et voilà, et donc je fais des interviews pendant 2-3 mois, et ça me permet de construire une sorte de scénario, une sorte de dérive comme ça qui se passe sur ce territoire, sans que je connaisse réellement le territoire. Donc en fait, je pars d'images que je me projette. Donc on me raconte des lieux que je ne connais pas. Donc, j'imagine ces lieux, j'imagine des scènes, et après je reviens sur ces lieux. Et j'aurais écrit un peu le scénario en fonction de ce que les gens m'ont raconté, de ce que moi je perçois. Donc voilà. C'est une sorte de double narration.
Donc ce sera des films qu'on verra jeudi soir au MK de Beaubourg, on vous y attend. Voilà, donc ça c'était un peu, c'est une page de publicité qui
c'était, ouais, c'était un petit encart.
À un moment donné, il faut une publicité, hein, c'est comme ça qu'on gagne notre vie aussi. Et donc, non, c'était aussi pour remercier Katia d'avoir partagé ces films qui effectivement sont peu ou pas vus en tout cas en France, donc c'est une occasion aussi de les découvrir. Certains on va pouvoir les voir certaines choses, ouais. Au MacVal, en tout cas, je vous invite à aller voir l'exposition. On se retrouve jeudi, sinon, pour les plus courageux, ambitieux et malins, à vrai dire. Ça, du coup, vous allez voir des choses que d'autres ne voient pas. Merci à tous. On va continuer de manière un peu informelle. On ne vous chasse absolument pas. Merci à Katia et donc à jeudi.